Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne qu'on fait à la bonne franquette. Aujourd'hui, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale et j'ai à la bonne franquette parce que moi, je suis en déplacement. Vous allez peut-être entendre un peu de bruit autour de moi. J'espère que c'est pas si mal. On fait ça en direct de l'aéroport. Je m'ennuie de l'hôtel Montville, de mon petit, de ma routine à l'hôtel Montville le lundi. Mais je serais très content d'y retourner la semaine prochaine. Mais j'ai un événement pour la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec à Vancouver. Bon, maintenant que ça s'est établi, je commence avec toi, Hugues Léger. Comment te portes-tu? Comment vas-tu en direct du magnifique Parc Jarry?
Oui, en direct du Centre national où mes bureaux sont maintenant situés. Ça va bien. Un peu fatigué quand même à cause des soirées tardives avec Melbourne et des matins tôt, si ce n'est pas des all-nighters, parce que c'est un des sujets de cette première semaine à Melbourne, là, les matchs, les deuxièmes matchs de Night Session qui se sont étirés à quelques reprises. Merci à Andy Murray spécialement pour ça. On va en parler un peu plus tard, mais ça va bien. Premier grand chelem surprenant, je dirais. On a beaucoup de sujets autour de ça aujourd'hui, c'est certain.
Nico, comment vas-tu, toi, dans ton nouveau domicile? Petit-fils est rendu grand, s'est acheté une maison, la tienne. Félicitations.
Oui, mais on repassera. Là. Je ne m'appelle pas Hugues Léger quand même, là, mais on s'y plaît. On s'y plaît à proximité de terrain de tennis et multiples activités extérieures. Oui, puis comme Hugues l'a dit, le sommeil nous rattrape. Hein, lorsqu'on écoute l'Open d'Australie, c'est toujours ça. On se demande est-ce qu'on se couche tard ou on se réveille tôt? Voilà, mais c'est une semaine extraordinaire dont on va se rappeler, je pense, très longtemps pour les bonnes et pour les mauvaises raisons.
Ben, surtout pour les bonnes, je dirais honnêtement, là, ça a été une bonne semaine. C'est plate, c'est sûr qu'il y a des grandes têtes de série qui sont sorties, mais je pense qu'au niveau spectacle, on a quand même eu un bon spectacle depuis le début de ce tournoi-là. Messieurs, commençons dans le vif du sujet là, avec les Canadiens, si vous voulez bien. À tout seigneur, tout honneur, commençons avec Félix Auger-Aliassime. Il y avait un quart de finale à défendre. Il fait quand même une ronde des 16. C'est décevant, mais satisfaisant en même temps. Est-ce que t'es plus mitigé que moi?
Ouais, Félix nous a pas donné son meilleur jeu. On s'attendait à ce qu'il passe au quart de finale. Ce quatrième tour contre Lechka, écoute, beaucoup de fautes directes. Je crois qu'il y a eu 45 fautes directes. Son service est un petit peu moins performant qu'à l'habitude. Je pense que les balles, qui apparemment sont plus lentes cette année à Melbourne aussi, ont un peu affecté son jeu. Mais honnêtement, il n'a pas tenu le rythme dans ce match-là. Tous les points qui se sont étirés au-delà de 5 coups, il était loin derrière Lechka. Donc, c'est un petit peu décevant pour Phil. Je pense qu'il ne doit pas être content de sa performance, mais il y a beaucoup d'apprentissage encore une fois pour lui. Mais c'est une déception, c'est certain.
En même temps, Lechka, joue le tournoi de sa vie là, présentement. Nico, es-tu mitigé comme moi ou tu es plus du côté déception comme Hugues?
Je suis entre l'arbre et l'écorce, j'ai envie de dire, là, parce que oui, Félix a fait de. Tu sais, son service est là. Ça, il ne l'a pas perdu, c'est très bien. Son coup droit va bien aussi. Sauf qu'il n'y a pas eu de match convaincant. Dans la mesure où, tu sais, les gars, il y a 128 joueurs dans un tournoi du Grand Chelem. Puis habituellement, la première semaine, pour les têtes de série, c'est supposé être simple, en théorie. Mais là, Félix, aucun match de 3 manches. Toutes des manches extrêmement compliquées. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Autant Félix aurait pu perdre dès le premier tour, autant qu'il aurait pu gagner par 3 manches. Donc, je trouve que c'est un peu en décousu comme début de saison, du moins en grand chelem. Il a gagné ses matchs. C'est l'important. Mais en grand chelem, il faudrait qu'il apprenne à gagner plus rapidement parce qu'il n'aurait pas pu tenir la cadence jusqu'à une finale. Il aurait été éreinté, brûlé, exténué. Puis c'est ce qui me fait peur un peu en début de saison.
Ben, c'est sûr que les deux premiers 5-7 ont été difficiles. Là. Ça, il faut le mentionner. Puis on en a parlé même avant le tournoi, messieurs, là, qui avait peut-être un peu de fatigue parce qu'il a joué tellement tard la saison passée. Il a presque pas pris de pause en jouant le World Tennis League. Et puis, il est déjà début janvier. Alors, est-ce qu'il y a un peu de fatigue selon vous, Nico? Je commence avec toi.
Assurément, on n'a pas le choix. L'humain étant ce qu'il est, c'est une machine qui n'est pas éternel, hein, puis c'est une machine qu'il faut roder. Oui, peut-être que ça lui a nuit en même temps. Je pense que Félix et son entourage ne vont pas le brûler pour rien non plus. Ça reste que s'il a joué ces matchs-là, c'est parce qu'il pensait être capable de le faire. Maintenant, est-ce qu'il va prendre une petite pause pour le swing américain dans quelques semaines entre Indian Wells et Miami? Est-ce qu'il va prendre plus de temps pour lui? Écoute, c'est dur à dire, on n'est pas dans sa position. Assurément qu'il y a un peu de fatigue. Quoique Félix, on le sait, c'est une machine d'entraînement, c'est une bête de gym. Je ne sais pas. À cet âge-là, en plus, assurément, peut-être, mais est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Je ne sais pas.
Ben, moi, je suis pas mal convaincu qu'il va aller jouer à Rotterdam. Je n'ai pas vu s'il a parlé de son horaire, mais comme il est champion en titre, là, j'ai l'impression qu'il va essayer d'aller défendre son titre. Bon, au niveau du classement, c'est quand même pas si mal parce qu'il défend une bonne partie de ses points. Ça, c'est la bonne nouvelle dans l'histoire. Bon, est-ce qu'il aurait préféré, selon vous, affronter Cameron Norrie? Parce qu'on se disait, le tableau s'ouvre, c'est pas Norrie, ça va être Lehecka, mais Félix, c'est possiblement la bête noire de Cameron Norrie. Je sais pas, Hugues, t'en penses quoi?
Ben, moi, je reviens sur la semaine de Félix. Il a besogné cette semaine. Il a travaillé très fort, trop fort. Et je pense que même contre Cameron Norrie, qui domine quand même dans les head-to-head, je pense qu'il y aurait eu de la difficulté. J'en parlais sur notre fil ce week-end. Les grands succès de Félix à l'automne, et ses quatre titres d'ailleurs sur l'année 2022, il les a eus à l'intérieur, dans des conditions contrôlées, où il pouvait servir sans être embêté par le vent, par la chaleur, par le soleil. Et je pense que ça a eu un impact sur sa performance. Et moi, c'est ce qui me fait poser quelques questions pour justement sa capacité là, à s'adapter, à ce que son meilleur jeu sorte, je devrais plutôt dire, dans des conditions un peu moins contrôlées. Est-ce qu'il aurait battu Cameron Norrie? J'ai pas la réponse à ça, mais je vois juste qu'il y a eu une semaine quand même compliquée où au final, il n'a pas pu respecter son classement de sixième favori. Et donc, c'est pour ça que je reviens sur le fait que c'est quand même une certaine déception. Et juste un petit point, c'était le dernier des joueurs en lice de nos 10 vedettes de Breakpoint de la série de Netflix. Et Félix aussi a subi la malédiction Netflix, alors qu'aucun de ces joueurs et joueuses qu'on suivait dans Breakpoint, dont tout le monde parlait il y a une semaine, s'est rendu en deuxième semaine en Australie.
J'allais justement t'en parler. Nico, est-ce qu'il a été victime du Breakpoint Jinx?
De la malédiction? Ben, je pense, les gars, que, bon, on le répète depuis le début du podcast, là, on entre dans une nouvelle ère. Est-ce que c'est vrai ou pas? On jugera en temps et lieu. Mais je suis convaincu, puis je mettrai ma main au feu, qu'au cours des prochaines années, même à partir de cette année, on le voit déjà, qu'il y aura de moins en moins de certitude dans les grands chelems. Alex, tu le répètes abondamment, la différence entre un top 10 et un top 50 est de plus en plus réduite. Alors, je suis convaincu que des têtes de série, qu'elles soient dans le top 10 ou dans le top 20, vont prendre la porte de sortie beaucoup plus rapidement qu'autrefois. Rappelez-vous, les gars, il y a 5 ans à peine, si tu étais top 10, tu avais déjà une place en deuxième semaine, ton hôtel était prêt pour la deuxième semaine d'un grand chelem. Là, ce n'est plus le cas. On le voit cette année. Oui, là, on parle de Netflix parce que ça s'impose, puis c'est à la limite rigolo, mais des Roud, des Fritz, des Félix ne seront pas assurés dans les prochaines années de faire des deuxièmes semaines en grand chelem. Puis honnêtement, les gars, en tant que fans de tennis, je déteste pas ça.
Ben non, parce que ça fait en sorte que, tu sais, la plus grande force du sport, c'est l'incertitude par rapport aux résultats. Et s'il y a une incertitude pour savoir qui va gagner, eh ben ça ne peut qu'être bon pour le sport. Bon. Je pense qu'on a fait le tour pour Félix. Sautons à Chapovalov.
Oui.
Hugues, écoute, encore là, moi, je ne suis pas très en demi-teinte. Je pense que c'est ultimement un bon tournoi pour Chapo.
Absolument. Oui.
Ben, vas-y, ton analyse.
Oui, ben justement, là où Félix a un peu terminé à court ou en deçà de nos attentes, pour Denis, c'est l'inverse. Il a tout à fait respecté son statut de 20e favori du tournoi. Il a chauffé Hubert Hurkacz dans un super match en 5-7. Rappelons qu'Hurkacz était 10e favori parce qu'il a perdu depuis contre Sébastien Corda. Mais Chapo a fait un tournoi à la hauteur de son classement et il a chauffé vraiment. Il est passé près de remporter son troisième tour. Donc, pour moi, c'est mission accomplie pour Chapovalov et c'est un Chapovalov qui est sur la bonne voie pour 2023. J'ai beaucoup aimé sa semaine à Melbourne.
Nico, est-ce que sa performance, son dernier match particulièrement, c'est positif pour ce qui s'en vient pour lui?
Assurément, un 5-7 contre Hurkacz, connu dans le milieu comme étant le nouvel meilleur ami d'Eugène Lapierre. Et contre un gros serveur comme ça, Chapo, je vous lisais en début de tournoi, les gars, c'était présomptueux, mais je suis convaincu que c'est l'année où Chapo reviendra ce qu'il était, le chapeau qu'on aimait. Je ne sais pas s'il va gagner un tournoi, je ne sais pas s'il va faire une demi-finale Grand Chelem, mais le chapeau semble être dans des bonnes conditions. Tu sais, on parlait de la finale contre Djokovic Wimbledon qu'il avait détruit, mais je suis convaincu que la victoire à la Coupe Davis l'a réanimé complètement. Oui. Puis 2023, oui. Les gars, je vous le dis, va être une grosse, grosse année pour Denis Shapovalov.
Ça se pourrait très bien, honnêtement. Puis déjà, le premier tournoi, il a été très bon. Alors, bon, ben que du positif dans le cas de Chapeau. Si on se transporte du côté des femmes, bon, Leila Annie Fernandez, c'est dommage à dire, mais elle s'est rendue là où elle devait se rendre, je pense.
Oui. Oui. Écoute, moi j'ai beaucoup aimé le jeu de Leila. On retrouve la Leila avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'assurance, qui colle à la ligne de fond pour prendre la balle dans le rebond très tôt, mais elle mettait beaucoup de pression sur le service de ses adversaires. Belle victoire contre Alizé Cornet, convaincante au premier tour. Et elle a chauffé Caroline Garcia, qui est une des meilleures joueuses du circuit en ce moment. Donc, pour Leila, un petit peu comme pour Shapovalov, c'est prometteur pour la saison. C'est une bonne semaine à Melbourne pour Leila aussi, malgré que ça s'arrête au deuxième tour, mais quand même contre une des meilleures joueuses du circuit.
Nico, abondes-tu dans le même sens?
Oh, tout à fait. Tu sais, contre Caroline Garcia, on savait que ça allait être un énorme duel. Elle avait ses chances, n'en demeure pas moins qu'on ne se le rappellera jamais assez, mais Leila a quand même fait une finale de Grand Chelem. Mais Garcia est dans une autre stratosphère depuis un an. Là, et non, elle a fait ce qu'elle devait faire. C'est malheureux. Un mauvais tableau pour elle, je pense que c'est simplement ça, parce qu'elle aurait pu... Ouais. Tu sais, on le disait, là, sa portion de milieu de tableau était peut-être plus simple que son début de tableau. Si elle avait passé Garcia, on aurait pu y croire. Mais non, c'est un défi pratiquement insurmontable pour elle en deuxième tour.
Ouais, écoute, on le sait, Garcia, c'était une des joueuses les plus en feu depuis un bon 6-7 mois. Là, c'est une des meilleures joueuses sur le circuit. Alors, il n'y a pas de gêne de ce côté-là. Du côté de Bianca Andreescu, messieurs, Nico, je commence avec toi.
Mais c'est positif parce que Bianca Andreescu, comment je dirais ça? On peut s'attendre au pire comme au mauvais, mais je suis pas critique envers Andreescu depuis un an. Les gars, vous le savez, j'ai renoué avec Bianca. On sait à quel point elle a travaillé fort pour revenir. C'est son premier grand chelem depuis son retour. Fallait s'attendre du moins à ça. Défaite au deuxième tour. Puis elle a pas mal joué. Là. Rappelez-vous, dans son premier match, on se disait, mon Dieu, elle est offensive. Elle contrôle les échanges. Elle semble être dans sa zone. Malheureusement, au deuxième match, ça n'a pas été, en tout cas du moins, ça a été moins le cas, mais de ce qu'on a vu, les parcelles de la vraie Bianca, ça m'encourage grandement. Et d'ici à l'Omnium Banque Nationale à Montréal, les gars, je pense qu'elle va faire beaucoup de tabac dans ce circuit et revenir, probablement, je pense. Elle a sa place dans le top 20, va-t-elle y arriver? Je ne sais pas, mais ce qu'on sait, c'est avec le niveau de jeu qu'elle a montré en Australie, elle est capable de revenir dans le top 20.
Oui, belle première ronde contre Bouskova qui était 25e favorite. Donc, c'est un upset. Hein? C'est une performance de Bianca au premier tour. Donc, victoire de 6-2, 6-4 quand même. Beaucoup de créativité. Elle dictait les échanges. Beaucoup de panache. C'est la Bianca qu'on connaît, là, qui a performé au plus haut niveau là, il y a 3 ans, 4 ans. Donc, moi, je suis très encouragé de ce qu'elle a fait. Courte défaite là, en 3-7 au deuxième tour contre Buxa. Bianca, ça va bien. Elle est sur un retour, encore une fois, il faut le dire, elle est plus forte physiquement, elle est plus fit physiquement, elle a l'air mieux mentalement, elle est revenue avec un coach qu'elle aime beaucoup en Christophe Lambert. Donc moi, je suis aussi positif là, pour le début de saison de Bianca Andreescu, mais qu'on aurait aimé l'avoir un peu plus longtemps à Melbourne, mais c'est bien parti pour Bianca.
Ben, j'abonde dans le même sens que vous, messieurs, puis je trouve ça tellement dommage, sa défaite d'une certaine manière, parce que elle était revenue de l'arrière dans ce deuxième set-là pour forcer le bris d'égalité. Et là, je me suis dit, une championne comme ça qui revient de l'arrière et qui va au bris d'égalité, c'est terminé. Elle va fermer les livres en 2-7. Crédit à Buxa que finalement, les nerfs ont tenu contre une grande championne. Alors, moi, je suis d'accord avec vous, messieurs, que c'est très positif, en tout cas, dans le cas de Bianca Andreescu également. Nico, un commentaire sur Gabriela Dabrowski, toi qui la suis là, jour et nuit.
Mais Dabrowski, les gars, à chaque début de saison, on se demande est-ce que c'est l'année où elle pourra remporter enfin son premier grand chelem en double, parce qu'elle a déjà gagné en double mix, mais pas en double féminin. Là, avec Gigi Olmos et sa partenaire, elle a trouvé, je pense, le bon fit enfin avec la Mexicaine. Là, elle est au troisième tour en double féminin. Donc, a battu Bencic et Teichmann lors de la dernière partie, ce qui n'est pas un duo simple à battre. Non? On sait que les Suisses, c'est pas mal l'une des meilleures formations pour ce qui est des matchs et des tournois par équipe. Pour Dabrowski, comme je l'ai dit, on la surveille, on l'aime beaucoup. Ce sera peut-être l'année du premier Grand Chelem à voir ce qui va arriver en Australie, mais c'est bien parti pour la Canadienne en double.
Ouais, exact. Je voulais qu'on fasse quand même un commentaire sur Dabrowski parce que je veux pas qu'on l'oublie parce que c'est une membre importante de l'équipe de la Coupe Billie Jean King et une des meilleures joueuses de tennis au monde dans sa catégorie ou dans sa catégorie. Alors, ouais, voilà, dans le cas de Gabriela Dabrowski. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va parler des autres joueurs dans ce tournoi. Il y a beaucoup d'histoires. On en a choisi quelques-unes pour vous. On vous revient dans quelques instants. Messieurs, beaucoup d'histoires cette semaine dans la première semaine d'activité. Oui. Alors, l'histoire qui nous a marqué le plus, je ne sais pas si je me trompe, Hugues, là, mais c'est Sir Andy Murray.
Absolument.
Quelle histoire et quelle émotion il nous a fait vivre oui. cette semaine, même si c'est un troisième tour. Il est déjà une des bonnes parties de l'histoire de ce tournoi-là.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la première semaine de l'Open d'Australie, mais moi aussi, ce que je retiens, c'est Andy Murray qui nous a fait vivre des émotions incroyables au bout de la nuit, littéralement. Il faut le répéter, Andy Murray, Sir Andy Murray, 35 ans, une ange de métal. Il joue ses deux premiers tours en 5-7 et c'est des remontées spectaculaires. Il joue le plus long match de sa carrière dans le match contre Kokkinakis. Fait un point notamment en défense à 0-2. Vous irez voir ça, c'est un instant classic, là, comment il a réussi à défendre ce point-là pour revenir de 3-5. 2-7-0 au troisième set et gagner ce match-là qui a duré 5h45. C'était la 11e fois qu'Andy Murray revenait de 0-2-7 dans des grands chelems. C'est un record. Il passe devant Federer qui est remonté 10 fois de 2-7 à 0. Andy Murray est rendu à 11. Mais quel courage, quel amour du tennis il a, ce gars-là. Et je suis content de redire, il faut parler du Big Four tout le temps, pas juste du Big Three, parce qu'Andy Murray, ce qu'il donne au tennis et aux amateurs de tennis, ça, c'est précieux. Donc, bravo Andy Murray.
Bon. Oui, ben c'est un peu, Hugues et moi, on s'est parlé cette semaine, puis c'est ce qu'on se disait. T'sais, on dirait que les derniers milles de la carrière d'Andy Murray nous rappellent qu'il était là lui aussi. Peut-être qu'on n'a pas apprécié, je pense, à sa juste valeur, l'impact qu'il a eu sur le tennis et à quel point son niveau de jeu était extraordinaire. T'sais, autour de 2012, là, lorsqu'il a gagné les Olympiques, lorsqu'il a gagné Wimbledon, il était dans une classe à part. Oui, il y avait Djokovic, Federer, Nadal, mais Murray a tenu son bout. Et ouais. Je pense, avec regret, qu'on ne l'a pas assez inclus dans la discussion. Assurément, il n'est pas considéré, je pense, pour être le GOAT. Il est vrai, il n'est pas dans ce débat-là, mais il est assurément dans cette ère de grands joueurs entre 2005 et 2020, dans ces 15 années-là, là, où il a marqué l'histoire du tennis, peut-être de manière moins spectaculaire, mais il a quand même sa place, je pense, dans les livres d'histoire Andy Murray.
Ben, il aura défendu une médaille d'or olympique, ce que à peu près personne ne peut dire au tennis. Là. Déjà, c'est exceptionnel. Et puis, c'est un champion de Grand Chelem à une époque où à peu près que trois joueurs gagnaient des Grand Chelem. C'est sûr qu'il aura marqué l'histoire. Et même dans son dernier match, on se parle souvent, là, les gens, on le dit souvent, on a une conversation de groupe où on se parle à peu près à tous les jours. Et moi, j'envoyais mes commentaires à 4h du matin lors de son dernier match parce que déjà le deuxième set, alors qu'il tire de l'arrière de très loin, revient de l'arrière et gagne le deuxième set avec l'appui de la foule. Il a finalement perdu ce match-là contre Roberto Bautista à Gutnitdan de façon spectaculaire, en donnant un spectacle, en laissant tous ses tripes sur le terrain. On ne peut pas rien demander de mieux comme ambassadeur du sport et quelle histoire il aurait
inspirant.
Été.
Il est inspirant. Ouais.
Puis je l'ai souvent dit, hein, messieurs, en nombre, là, je vais le prendre aussi longtemps qu'il le voudra. Exactement pour cette raison-là. Puis quand tu es capable de chauffer encore les meilleurs au monde avec celui que Maxime Vanout appelle Shakira parce que « hips don't lie », j'avais dit que j'allais en parler. Écoute, c'est absolument phénoménal ce qu'il réussit à faire. Une autre joueuse sur laquelle je veux vous amener, messieurs, c'est une joueuse qui a vraiment bien fini la saison. Nico, Jessica Pegula, c'est une joueuse que tu aimes beaucoup également. Est-ce que c'est une fille qui peut aller jusqu'au bout?
Assurément, c'est son heure. Je ne sais pas si c'est son tournoi, mais c'est son année. Troisième mondial, Pegula, une fille qui est bonne en double, comme en simple, une fille qui est bonne dans toutes les sphères du jeu, a un arsenal de coups extraordinaire. C'est une combattante, c'est une fille. Puis tu sais, Alex, on en parle souvent, mais Pegula, il faut rappeler aux gens qu'elle est la fille de la famille Pegula, donc qui est propriétaire des Bills de Buffalo, des Sabres de Buffalo. Une fille, oui, qui pourrait ne rien faire du tout et être multimillionnaire, voire milliardaire. Elle a cependant fait des challengers. Elle a fait le Challenger de Québec. Elle allait voir les remparts souvent. C'est une fille qui, malgré l'historique familial, a décidé de prendre sur elle-même, d'y aller étape par étape. La voilà aujourd'hui à 28 ans, au troisième rang mondial. Elle n'est pas la plus talentueuse. C'est pas un talent brut. C'est pas un prodige. Mais c'est une fille qui a travaillé d'arrache-pied pour arriver là où elle est rendue. Et de la voir comme ça, meilleure que jamais dans un tournoi du Grand Chelem, ça me ravit au plus haut point. Puis je pense que tous les amateurs de tennis devraient la regarder puis être heureux, être satisfait du chemin parcouru, parce que de la voir comme ça, c'est génial.
Et un mot sur Jessica Pegula, ou est-ce que Nico a fait le tour?
J'abonde dans le même sens de Nico, et elle est toujours dans le tableau en double avec Coco Gauff, dont on parlera aussi un peu. Donc Pegula, effectivement, elle a construit son succès au fil des années. Et moi aussi, je suis toujours impressionné par quelqu'un qui pourrait se la couler douce, en fait, mais elle a décidé de se battre pour aller monter au classement et aller chercher des grandes victoires. Je ne suis pas certain que je la mets gagnante en Australie. Je pense que Nico a plus confiance que moi. Mais déjà, un quart de finale, c'est très beau. Et je pense qu'elle va gagner son match contre Azarenka au prochain tour. Elle va se retrouver dans le carré d'as. Et qui sait ce qui peut arriver par après. Mais très belle performance de Pegula, qui s'inscrit dans cette lancée du tennis américain dont on parlera un peu, là, qui va bien tant du côté féminin que du côté masculin.
Et les gars, Pegula, ben, je te rappelle, là, en double, elle joue avec une certaine Coco Gauff. Ces deux-là, oui, en double, oui, on parle du simple pour les deux, mais en double, c'est l'un des meilleurs duos de la planète, oui, assurément, parmi
deuxième
les prétendants.
Favorite.
Exact,
deuxième
pour favorite, les prétendants pour un grand chelem dès cette année en double.
Oui.
Ben, j'allais dire que les États-Unis ont déjà marqué ce tournoi-là, et d'une Américaine, on passe à un Américain. Un de tes préférés, Nico, Korda aussi, là, il faut en parler, c'est une histoire que personne n'avait vu venir, peut-être, sauf toi.
Écoute, s'il fallait rapailler pièce par pièce, toutes les fois où j'ai parlé de Korda depuis 3 ans, je pense qu'on aura un show d'une heure, les gars.
C'est vrai.
Il est génial. Il a battu Daniil Medvedev. Il a battu Hurkacz. Bon, il est... Bon, Hugues va parler de l'équipement tantôt. Il est revenu avec son ancienne raquette avec laquelle il est plus confortable, là, visiblement. Mais Korda, les gars, il a fait la finale du Next Gen contre Alcaraz il y a quelques années. C'est un gars qui est bon au service. Il est agile, il est flexible, il est rapide. Il a tout pour réussir. Peut-être que ça a pris plus de temps parce qu'il n'est pas un jeune prodige comme Alcaraz, par exemple. Mais là, il est là où il devrait être. Korda est assurément un gars de calibre top 15, voire top 10. En Australie, là où son père a gagné il y a quelques années aussi, il semble être à l'aise. Je ne voudrais pas être le joueur qui affronte Sébastien Korda présentement.
Hugues, est-ce qu'il est un candidat pour aller jusqu'en finale?
Oui. Mes deux choix là, en ce moment, maintenant que tout se place un peu, c'est Korda et Djokovic là, qui sont les deux favoris qui restent dans le tableau en ce moment. N'oubliez pas qu'il y a eu une balle de match contre Djokovic il n'y a pas plus que 10 jours à Adélaïde. Djokovic a été impressionné par la détente, la puissance aussi de Seb Korda. Il a l'air tout en contrôle, complètement, justement, relax. Il peut composer avec toutes les situations qui lui sont proposées. Écoute, sa victoire contre Hurkacz, 17 dans le pro tie-break du 5e set, il fallait le faire quand même. Moi, je suis impressionné aussi par Seb Korda, et je pense que Nico avait vu juste depuis qu'il nous en parle. Il vient d'une grande famille de sport, on le sait. Il dit souvent, tout le monde est meilleur que moi, je suis le moins bon de la famille, j'ai le moins gros classement, mais je pense qu'il rattrape tout le monde en ce moment. Et j'en ai profité pour vous partager des extraits de son père, Peter Korda, qui avait connu des saisons fabuleuses là, en 97-98, avec des victoires contre Sampras notamment. Grande famille de sport et très bel athlète, Sébastien Korda. Je serais content de le voir gagner en Australie.
Et les gars, vous l'avez vu jouer, mais moi, je l'ai moins vu jouer, mais j'ai vu sur Twitter, je pense, une comparaison.
Tu sais, Nico, je suis pas tant plus vieux que toi. Là. J'ai pas 20 ans sur toi.
Dans le sens où tu as quand même peut-être vu, je veux parler de Leighton Hewitt, parce que j'ai vu une comparaison entre les deux joueurs. Peut-être parce qu'ils sont blonds, mais dans cette détente, dans ce calme, puis pour connaître un peu la famille Korda, pour ces deux sœurs jouent au golf, ce sont des gens très cool, très drôles, jamais la grosse tête, ont du fun à jouer. Peut-être qu'ils perdent, mais c'est toujours avec le sourire, parce qu'ultimement, on fait du sport, on a du fun. Donc, dans cette détente, mais dans cet aplomb en même temps, de ce côté compétitif, mais respectueux, il y a peut-être une comparaison avec les Hewitt que j'ai vu défiler sur Twitter, puis je me demandais si vous pouviez peut-être consentir à ce que ce soit vrai ou pas.
Ben, je peux en parler un peu, Nico. Moi, c'est plus de ma génération, encore une fois. Quand on parle de Leighton Hewitt, c'est il y a une vingtaine d'années où il était à son meilleur. Hewitt était plus teigneux et dérangeait ses adversaires plus que Korda peut le faire. Hewitt est le premier ou un des premiers du côté masculin qui a commencé à lancer les gros « come on » après un point gagné. Et ça s'en énervait plus d'un à l'époque. Moi, je trouve que Korda est beaucoup plus « laid back », beaucoup plus « cool ». Par contre, oui, dans la stabilité du jeu de fond de terrain, dans la rapidité et la puissance des coups, ça peut se ressembler un peu au niveau de la façon de jouer. Mais je pense que Korda est encore plus complet que Leighton Hewitt au niveau de son arsenal. Et il porte très bien la couleur jaune aussi, qui est une des couleurs de l'Australie. Et je pense que c'est une prémonition pour moi là, de voir qu'il pourrait aller jusqu'au bout, en fait, Sébastien Korda cette année.
Et je disais, messieurs, que le tournoi a été marqué, entre autres, par les Américains. Ben, il y aura un match tout américain en quart de finale entre Ben Shelton et Tommy Paul. Shelton, il y a une histoire intéressante, lui, parce qu'il vient d'une famille de tennis, et Tommy Paul, ben, c'est un joueur qu'on va entendre parler de plus en plus dans les prochaines semaines. Avant qu'on passe au dernier bloc, messieurs, il y a deux histoires dont je veux qu'on parle. L'histoire des champions de Wimbledon, Rybakina et Novak Djokovic. Bon, passons rapidement sur Novak Djokovic. Je pense que Novak Djokovic a le champ ouvert pour aller remporter un autre titre et conférer sa place de meilleur joueur au monde. Nico, je commence avec toi.
Ce sera plus simple que prévu, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. On savait qu'il allait gagner le tournoi, peut-être avec un peu de défi au passage, mais là, c'est juste trop facile pour Djokovic. Il va remporter puis il va égaler Nadal pour le plus grand nombre de grands chelems chez les gars. Il
pourrait avoir un Roublev dans les pattes, là, mais tu as raison. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui pourraient l'intimider dans ceux qui restent, Hugues.
Oui, je pense que le gros test pour Djokovic, c'est le prochain tour contre Roublev, qui connaît tout un tournoi en ce moment. Mais je pense que Djokovic va passer devant. Mais je veux parler de Rybakina. Encore une fois, les gars, les points non alloués à Wimbledon viennent tout déranger en début d'année. Rybakina est 22e favorite seulement pour ce tournoi-là. Elle est championne de Wimbledon. Elle n'a pas ses 2000 points qui l'auraient mis beaucoup plus haut au classement, ce qui fait qu'elle n'aurait pas joué Swiatek si tôt durant ce tournoi-là, normalement. Mais bon, elle a battu Swiatek quand même. Bravo, elle l'a mérité. Mais pour moi, Rybakina, c'est l'une des histoires intéressantes du tennis en ce moment. Depuis Wimbledon, il faut en parler. Donc, les deux champions de Wimbledon 2022 sont vraiment bien partis pour aller loin, voire jusqu'au bout à Melbourne. Et Rybakina jouera contre une autre joueuse surprenante, Ostapenko, qui est toujours là, qui sort Coco Gauff, qui s'effondre en larmes durant la conférence de presse. Après, c'est une grosse surprise de voir Ostapenko, championne de Roland-Garros 2017, se retrouver maintenant en quart de finale. Mais je pense que Rybakina va la sortir beaucoup plus forte, beaucoup plus complète au niveau de son jeu. Mais Ostapenko, malgré, écoutez, un physique où elle n'est pas à 100%, c'est évident. Hein, elle a déjà été beaucoup plus fit que maintenant. Et je dis ça évidemment en tout respect. Elle joue extrêmement bien, mais je pense que Rybakina va passer son quart de finale contre Ostapenko.
Mais Rybakina est à un autre niveau, tout simplement. Puis les gars, je la regardais jouer. Là. Est-ce que vous savez à qui me fait penser dans son style de jeu? Puis je ne veux pas faire là, de comparaison boiteuse, mais elle me rappelle beaucoup une certaine Eugénie Bouchard en 2014-2015. Mmh. Pourquoi? Ouais. Toujours à l'intérieur du terrain. Prend la balle extrêmement tôt dans le rebond. On la voit souvent accroupie ou en petit bonhomme pour finir ses jeux. Un revers stable, une grande élancée, un service constant. Vraiment, présentement, les gars, je ne vois pas qui pourrait battre Rybakina d'ici... mettons, les demi-finales, parce qu'elle est tellement dans une zone. Puis elle aussi, Hugues, tu parlais du classement. Là. Pour Djokovic, on parle que c'est une motivation de prouver qu'il est vraiment le meilleur au monde. Certains. Mais Rybakina aussi, elle veut prouver que sa victoire à Wimbledon, là, c'était pas par hasard, puis c'était pas une erreur de parcours. Là.
Tout à fait.
Ben, elle aura quand même Rybakina, une Pegula et ou une Azarenka sur son parcours, une Ostapenko peut-être. Et après ça, ben, en finale, il faudra battre peut-être une Sabalenka ou une Pliskova. Alors, elle peut certainement gagner ce tournoi-là, mais ce ne sera pas facile. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'à tous ceux qui doutaient si son titre était légitime à Wimbledon en raison des circonstances qu'on connaît, eh ben, elle est en train de justifier son statut de championne de Grand Chelem à vitesse grand V, messieurs. Messieurs, c'est une émission spéciale aujourd'hui, je le disais, je suis en direct de l'aéroport et c'est concept parce qu'au retour de la pause, on reçoit notre nouvelle collaboratrice, Mylène Matteau, qui va nous parler de certaines destinations voyages un peu partout autour du monde et évidemment cette semaine, on commence avec Melbourne.
Séjournez dans l'une des magnifiques suites entièrement vitrées de l'hôtel Montville. Vous serez gâtés grâce à un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour bénéficier de cette offre exclusive. Venez prendre un verre au bar et restaurant Monem de l'hôtel Montville. Parfait pour une fin de journée après le travail ou pour célébrer le temps des fêtes. De nombreux cocktails savoureux conçus pour la saison des fêtes vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hotelmontville.com.
Messieurs, dernier bloc de l'émission. Et pour ce bloc-là, j'accueille notre nouvelle collaboratrice, Mylène Matteau. Mylène, merci beaucoup d'accepter ce mandat-là et de te joindre à nous.
Bien, c'est avec grand plaisir que je le fais. Bonjour à vous trois.
Bon, avant qu'on rentre là, dans le vif du sujet, tu es la propriétaire d'Accès Croisières et Voyages. Parle-nous un peu de cette compagnie-là, parce que, bon, évidemment, tu es une spécialiste des voyages, c'est pour ça qu'on t'invite, mais parle-nous de ta compagnie.
Bien, en fait, ça fait maintenant 8 ans que je suis propriétaire de mon agence de voyage. Et puis, avec le temps, bon, le nom s'est modifié pour Accès Croisières Voyages. On se spécialise dans la croisière, mais dans des destinations partout autour du monde. Alors, vraiment, l'Australie fait partie des plus belles croisières qu'on peut faire, d'ailleurs.
Bien, on va en parler. Tu vas venir nous parler de plein de destinations au courant de l'année. Mais là, on va commencer avec l'Australie à Melbourne. Rentrons dans le vif du sujet. Ça ressemble à quoi, Melbourne, quand tu conseilles ça à des voyageurs?
Bien, en fait, j'ai pris vraiment Melbourne au moment où ce qu'on est dans l'open, soit on est au mois de janvier. Et puis, vous savez, bon, nous, on est dans l'hémisphère nord, l'Australie, hémisphère sud. Alors, les saisons sont contraires, premièrement, à nous. Alors, janvier, c'est pour eux la grande période des vacances estivales. Énormément de touristes qui sont là aussi parce que la température est super clémente. On va environner environ, on va être autour de 26 degrés là, le jour là, pour avec un temps ensoleillé, bien évidemment. Alors, Melbourne, c'est la deuxième plus grande ville aussi de l'Australie après Sydney. Mais c'est une ville plus, je dirais, de découverte, d'aventure. On a une grande, grande diversité culturelle dans cette ville-là. On en trouve pour tous les goûts. Il y a toujours, bon, des événements sportifs, mais un festival, une exposition, un concert. C'est une ville où il y a vraiment beaucoup de... d'activités à faire et à découvrir. Alors, j'ai regardé un peu, en fait, où était situé le parc où l'Open a eu lieu. Puis je me suis dit, bon, si j'avais nos chers joueurs de tennis devant moi, je leur dirais de faire quoi, de s'en aller vers quelle direction. Fait qu'à quelques minutes, à l'intérieur d'une quinzaine de minutes, vraiment plusieurs choses à faire, à découvrir. On a tout d'abord le Federation Square, qui est une place, je pourrais la comparer à la place des festivals à Montréal. On a une bâtisse qui a été construite il y a déjà 20 ans et qu'on va retrouver là plusieurs animations, autant que de jour, de soir, intérieur, extérieur. Il y a plus de 2000 événements culturels qui se retrouvent à cet endroit-là à chaque année. Et cet endroit-là se trouve directement devant le Flinders Station, qui est la plus grande gare de Melbourne. Parce qu'il faut savoir, si on se promène à Melbourne, on va se promener en tramway et en bus et à pied. C'est vraiment les trois moyens de se déplacer qui vont faciliter notre voyage.
C'est-tu en raison du trafic particulier? C'est-tu pour ça qu'on se, on se, C'est plus en transport en commun?
C'est plus en transport en commun parce que c'est accessible. C'est les moyens les plus, les moins chers et surtout parce que ça a vraiment été développé pour ça. Je vous parlais de tramway. Il y a des tramways avec un look vintage, un look antique qui se promène dans la partie de la vieille ville. Alors maintenant, cette partie-là qui était la ville au tout départ, beaucoup plus, plus petite, c'est le Central Business District. C'est là qui est le quartier des affaires, en fait. Et il y a un tramway, il y en a plusieurs en fait, où je vous dis les wagons ont un look vintage, un look d'époque. Et puis, on a un tour d'une cinquantaine de minutes qu'on peut faire. Et puis, on nous raconte l'histoire en fait de la naissance de Melbourne et vraiment l'historique de la ville. Fait que c'est vraiment très, très intéressant à faire aussi. J'ai trouvé deux, trois petits trucs à faire qui est un peu plus inusité. Il faut savoir que les ruelles à Melbourne sont remplies de graffitis. C'est vraiment magnifique. C'est de l'art de rue qui est organisé, que je pourrais dire, parce que certains grands artistes qui sont venus à poser leur
art, signature.
Signature, oui, merci Alex. Leur signature sur sur les murs des ruelles. Alors vraiment, on a de l'art dans les musées, il y a plusieurs musées, mais on a aussi à l'extérieur. Par la suite, un autre truc que je trouvais le fun à faire en janvier, c'est du cinéma en plein air. On a deux endroits où on peut aller carrément profiter du cinéma. Tout d'abord, dans les jardins royaux, les jardins botaniques royaux, qui sont situés à quelques pas de la place où se déroule l'Open. Alors, un grand écran est installé dans les jardins. Les gens arrivent avec les pique-niques, les couvertures, et puis on assiste à des projections. Et la deuxième place, ça s'appelle The Curtains. C'est un bar qui est en haut d'un des plus gros gratte-ciels de Melbourne. Alors, en plus de profiter de la vue panoramique sur la ville, on a le cinéma en plein air directement sur le toit de ce gratte-ciel-là. Fait que ça fait partie des petites activités insolites et différentes à faire là, à Melbourne.
Est-ce qu'on t'en fait beaucoup de demandes pour l'Australie? Parce que c'est quand même beaucoup de voyagements, c'est loin. Est-ce que c'est une destination qui est prisée par les voyageurs?
C'est prisé, mais c'est sûr que c'est une destination qu'on va prendre le temps de découvrir. Alors, j'ai beaucoup plus de voyageurs qui vont partir avec leur sac à dos ou qui vont à destination des fois louer des motorisés pour prendre vraiment le temps et faire le tour de l'Australie. Tant qu'à être là, hein, on fait plus qu'une ville et on découvre le pays en entier.
Hugues, tu voulais faire un petit point sur le tennis voyage.
Ouais, je trouve ça vraiment cool, cette chronique, Mylène. Vraiment content que tu te joignes à nous, parce que je le dis souvent, moi, mon année calendrier est rythmé par les événements de tennis, et on voyage un peu à travers ça. Hein. Quand ici, c'est l'hiver, ben on pense au soleil, on pense évidemment à Melbourne, ils sont en plein été là-bas. Tu as le Sunshine Double après à Miami, à Indian Wells. Après, c'est la Méditerranée avec Monte-Carlo. Pour moi, c'est le début du printemps. Rome, Madrid, qui mène vers Roland-Garros au printemps, début de l'été, Wimbledon, le US Open à la fête du travail. Donc, je suis vraiment content qu'on amène cet aspect-là de voyage et comment on peut faire joindre l'utile à l'agréable dans cette année tennistique. Donc, Mylène, c'est vraiment, vraiment intéressant que tu te joignes à nous.
Oui, puis on s'entend que Melbourne, là, au niveau depuis 1905, que l'Open a lieu à cet endroit, fait qu'il y a vraiment toute une histoire liée au tennis. Alors, si vraiment on a des auditeurs qui l'année prochaine disent « Hey, je prends des vacances en janvier, je peux me rendre là », mais oui, sachez que vos vacances vont être vraiment agréable, puis en plus, vous aurez la chance peut-être d'assister au tournoi.
Très cool.
Mylène, pendant que je vais un peu trop loin dans ma question, là, je m'adresse plus à la spécialiste voyage, mais on dit souvent que l'Australie, c'est un Canada, mais en plus chaud. Est-ce que c'est vrai selon toi?
Ça peut ressembler à ça, oui. Pour avoir un ami qui s'est expatrié pendant 6 ans en Australie, on s'acclimate bien comme Canadien là-bas. Fait que oui, fait plus chaud, tout dépendant à quel endroit qu'on est. Si on se retrouve au centre de l'Australie, il y a tout simplement deux saisons, soit qu'il fait très, très chaud ou il y a la saison des pluies, tandis qu'à certains endroits, on retrouve le fameux 4 saisons que nous, on vit. Bien sûr, bon, l'hiver est beaucoup moins rigoureux en Australie, mais sensiblement, leur façon de vivre et tout est la même que nous du côté nord-américain. Là. Fait que oui, c'est un pays qu'on s'acclimate beaucoup, où on a la chance, par exemple, de voir des koalas et des kangourous.
Hugues, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, alors moi, je t'écoute avec beaucoup d'intérêt. J'ai bien hâte de voir comment tu vas nous préparer à chaque tournoi qui s'en vienne. Là, évidemment, là, on pense à Indian Wells, Miami. Donc, moi, j'ai juste hâte d'entendre de quoi tu vas nous parler, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à découvrir. Et on voit que les joueurs et joueuses aussi sont toujours heureux de parler de ce qu'ils vivent aussi quand ils font leur saison de tennis. Et ils ont hâte aussi de passer d'une ville à l'autre pour profiter de ces villes-là. Donc, on amène un aspect du tennis qui est vraiment très présent dans la vie des joueurs et de plusieurs fans aussi qui s'organisent des voyages de tennis à travers l'année.
Hélène, en tout cas, moi, je vais te dire, j'ai fait mes demandes d'accréditation pour Indian Wells. Tu peux peut-être garder ça du coin de l'œil en Californie là, pour la prochaine destination. Et c'est le prochain gros tournoi aussi qui va être là. Hélène, si les gens veulent réserver un voyage, comment est-ce qu'on fait pour te contacter?
J'ai vu là, passer pendant qu'on se parlait la page Facebook. Fait que, bien sûr, avec nos réseaux sociaux, on a le site web www.acev.ca. Puis vous allez retrouver toutes nos coordonnées pour contacter notre équipe. Et tout dépendant du type de voyage, vous allez être dirigé vers un membre de mon équipe. Alors, c'est pas nécessairement à moi que vous allez discuter, mais on va vous référer à la meilleure personne pour le conseil voyage que vous avez besoin.
Ben, Mylène, merci infiniment. Et puis, merci de te joindre à l'équipe comme collaboratrice. On est bien fiers de t'avoir avec nous. Puis, on se reparle une prochaine fois.
Oui, c'est avec grand plaisir. Alors, on se reparle pour la Californie.
Merci, Mylène. Merci.
Merci. Bonne journée.
Je pense qu'on va avoir du fun avec cette chronique-là, messieurs. Bon, Hugues, avant qu'on fasse nos prédictions là, pour la fin de l'épisode, là, tu es en direct des bureaux de Tennis Montréal au Parc Jarry. Je le mentionnais au début de l'émission. Tu veux faire un retour là-dessus?
Oui, non, mais c'est surtout pour parler du fait que les programmes d'hiver sont en cours. Il reste quelques places pour ceux qui sont intéressés. Pour tous les citoyens de la ville de Montréal, c'est très avantageux de prendre des cours ou activités avec nous. On a un sport-études aussi, Tennis Montréal Excellence. Et j'ai frappé avec ces jeunes-là vendredi dernier. Et disons que ça replace un peu le niveau d'humilité par rapport à son niveau. Donc, je me situe à peu près au niveau de joueurs d'âge de 15-16 ans en ce moment au niveau national. Donc, je suis fier de dire qu'ils sont vraiment très forts. Mais venez faire un tour au Parc Jarry pour nous voir. Tennis Montréal offre plusieurs activités ici.
Nico, joues-tu toi pendant la saison hivernale? Tu joues pas mal pendant l'été. Est-ce que pendant l'hiver, tu vas jouer à l'intérieur?
Moi, l'hiver, c'est plus rare. Là. Je suis plus à l'extérieur là, pour ce qui est du ski et du patin à glace notamment. Mais il y a l'interclub à Piémont où je vais faire quelques visites parce que j'ai des amis qui y sont membres. Alors, mais non, j'aime ça. Alterner les sports au fur et à mesure dans l'année, je trouve que ça fait du bien et ça replace un peu les idées. Puis on a tellement hâte aussi rendu à l'été de frapper des balles. Mais non, un petit peu moins, mais là, je vais m'y adonner possiblement plus au cours des prochaines semaines.
Hugues, je ne sais pas si tu as la réponse. C'est vraiment une question d'un gars qui n'a jamais loué de terrain au Parc Jarry. Mais est-ce qu'on a accès aux terrains de terre battue en haut? Est-ce qu'on peut les louer, ces terrains?
Absolument. Tous les terrains sont disponibles, incluant les terrains sur la mezzanine. Donc, c'est vraiment une question de disponibilité. Il faut appeler tôt. Si vous avez une carte accès à Montréal, c'est plus facile. Vous avez une journée de plus pour commencer à réserver. Mais tous les terrains sont accessibles à la population en général. C'est juste qu'ils sont très en demande. Donc, il faut le faire le plus rapidement possible. Mais si vous voulez jouer sur terre battue, il y a trois très beaux terrains là, sur la mezzanine ici, au stade IGA.
OK. Revenons rapidement sur l'Omnium d'Australie parce que je veux vos prédictions, autant du côté des hommes et du côté des femmes. On a le temps d'élaborer. Nico, je commence avec toi. Qui est ta championne du côté des femmes et pourquoi? Et qui est ton champion du côté des hommes et pourquoi?
Ouais, on s'en est parlé un petit peu hors d'onde, les gars, mais je suis assez fier de dire que pour une fois, je ne me suis pas trop trompé dans mes prédictions parce qu'en finale, moi, ça tient toujours entre Jessica Pegula et Aryna Sabalenka. Et j'avais donné la victoire à Sabalenka. Je vais conserver ce choix-là parce qu'elle est tout feu, tout flamme. Elle a gagné il y a quelques semaines maintenant en Australie. Là, elle joue du tennis extraordinaire. Donc, je vais garder Sabalenka pour son premier grand chelem. Puis du côté des gars, j'avais aussi dit Djoko pour l'emporter. Je vais garder ce choix plus que jamais. J'avais cependant Félix en finale. Il sera remplacé par Sébastien Corda pour une fois que je peux le lancer dans la discussion sans faire rire de moi. Je vais prendre la balle au bon et le placer en finale contre Djoko. Mais Djoko, ce sera un walk in the park, comme on dit dans le milieu, jusqu'en ouais. finale et jusqu'au titre.
Ouais, ça se pourrait très bien. Hugues Léger, oui. Qui est ta championne du côté des femmes et qui est ton champion et pourquoi?
Écoutez, même si mon pool en ce moment me met à moins de 60 % de réussite après une semaine, je garde mes deux champions que je vous ai donnés il y a une semaine, Djokovic du côté des hommes et Sabalenka du côté des femmes. Cela dit, je vous donne quand même mes deuxièmes choix parce que je pense qu'il y a une surprise possible du côté féminin ou masculin, peut-être plus du côté féminin. Donc, je mets Rybakina comme mon dark horse du côté féminin et Sébastien Corda qui pourrait peut-être causer une surprise du côté masculin.
Moi, je ne pense pas que Sébastien Corda va l'emporter. Je pense que son tableau est un peu compliqué là, pour pouvoir l'emporter. Je ne l'entrais même pas comme Dark Horse, mais il est déjà une bonne histoire. Et aussi, je pense que du côté des hommes, ben, il n'y a pas beaucoup de compétition pour Novak Djokovic. Il n'a pas montré qu'il était en position de faiblesse depuis le début du tournoi. Bon, il joue bien depuis, ben, en fait, depuis tout le temps. Mais dans les 6 derniers mois, il a prouvé qu'il était très solide. Et je pense
J'ai l'impression que sa cuisse va très bien. Encore une fois, petit doute sur la gravité puis comment il joue avec cette situation médicale-là depuis une semaine, mais sa cuisse ne le fait pas souffrir. Il l'a dit après son match contre Demi-Nord hier, j'ai rien senti, donc tout va bien pour Djokovic.
Je pense que le seul joueur qui pourrait légitimement chauffer Djokovic, c'est peut-être un Tsitsipas. Peut-être un Rublev, là, son prochain match, mais je pense qu'il devrait passer Rublev. Ouais. Mais Tsitsipas pourrait peut-être l'embêter. Ils se sont déjà donné de longs matchs, ces deux-là. D'ailleurs, ils sont les auteurs de la pause toilette. La pause toilette, d'ailleurs, qui a continué de faire des siennes. Andy Murray qui avait une réclamation. Mais regarde, on a une minute, là. Raconte-donc la situation, Hugues.
Je ne l'ai pas vu. Dis-moi, c'est quoi?
Excuse-moi, c'est parce que tu as caissé. En fait, Andy Murray a réclamé que si le match s'étire jusqu'à 4 heures du matin, qu'on puisse changer le règlement pour aller aux toilettes. Là, parce que là, ça peut devenir compliqué. Puis je pense que John McEnroe aussi était d'accord avec ça. Là, qu'on puisse être plus flexible dans la mesure où les matchs finissent très tard. Là,
tout à fait. Et on se rappelle que l'ajustement du règlement pour être plus strict sur le 5 minutes vient justement des sorties prolongées de Djokovic et de Tsitsipas. Donc, on est toujours dans le cœur du sujet avec ces deux joueurs-là.
Donc, Djokovic, je pense que c'est à lui de perdre ce tournoi-là du côté des hommes. Ouais. Et du côté des femmes, messieurs, ben moi, je vais y aller avec Jessica Pegula. Je pense qu'elle joue très bien depuis la fin de la saison passée. C'est peut-être son temps. Et t'en parlais, Nicolas Richard, moi, j'ai un faible pour cette histoire-là parce que on l'a dit plein de fois, elle n'est pas obligée de jouer au tennis. Ouais. Elle le fait parce qu'elle tripe sur le sport, parce que tu peux. Puis on va se le dire, là, oui, l'argent peut aider les choses, mais l'argent n'achète pas une 4e place ou une 5e place mondiale. C'est pas. C'est impossible. Alors, je pense que Jessica Pegula, elle a une histoire intéressante. Et puis, ben moi, c'est ma championne. Peut-être une Sabalenka. Qui sait? Sabalenka, ça pourrait très bien. Ça fait longtemps qu'on l'attend dans le cas de Sabalenka. Ouais. Ça pourrait très bien se passer. Messieurs, ça a été une émission, une fois de plus, bien remplie. Nicolas Richard, avant qu'on se laisse, là, comment tu as trouvé ton premier épisode dans ton nouveau domicile?
Ça résonne bien. Le son est bon. Je ne sais pas si les voisins ont entendu. En tout cas, ils ont l'exclusivité de l'émission avant qu'il soit officiellement diffusé. Non, on va s'y plaire. Les gars, je suis en train de me faire un petit studio. Là. Il y a toujours un et demi dans un bail. Mais mon et demi sera le studio. Alors, ce sera un 3 studio.
Et là, ce qu'on constate, c'est que tu n'as possiblement pas de télé, pas de câble, pas de peinture, mais tu as le Wi-Fi.
Voilà. Et c'est l'essentiel.
La priorité. Hugues Léger, merci infiniment. Je me suis ennuyé du Montville. Tu te retrouves là la semaine prochaine. Toi et moi. Et Nico, écoute, comme c'est la tradition, je te donne l'excellent, le savoureux mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.